Je vous pose une question en commençant le sermon aujourd'hui. Les prophéties s'accomplissent en ce moment sous nos yeux. Pourquoi? Et comment ces prophéties-là qui s'accomplissent vont-elles affecter votre vie? Je veux m'en servir pour introduire mon sujet aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces choses se produisent maintenant? Dieu a annoncé ces choses-là il y a des milliers d'années déjà. Allons à Ésaïe chapitre 1, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 1. Ésaïe était un prophète qui était envoyé au royaume du Sud. Son ministère s'est étendu de l'an 740 à l'an 700 à peu près avant Jésus-Christ. Alors qu'il était prophète au royaume du Sud, le royaume du Nord a été amené en captivité dans les années 720 avant Jésus-Christ. Alors, Ésaïe a prophétisé environ 20 ans avant que l'autre partie du royaume soit envoyée en captivité. Ils étaient encore prospères à ce moment-là. Ici, on voit que Ésaïe parle de toute la maison d'Israël. Ésaïe 1, chapitre 3, « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. » Israël, par contre, ne connaît rien. Israël ne connaît rien. « Mon peuple n'a point d'intelligence. » Si on va au chapitre 2, maintenant, verset 5, « Maison de Jacob. » Donc, le prophète s'adresse aux 12 tribus d'Israël et non seulement aux Juifs. Ésaïe avait un message à livrer non seulement aux Juifs, mais à toute la maison d'Israël. Et ces choses-là ont une dualité de réalisation. Ça s'est réalisé dans le passé et ça va se réaliser et ça se réalise maintenant. Verset 6, « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. » Si nous allons au chapitre 3 maintenant et le verset 1, ce sont des prophéties décrivant ce qui s'est produit dans Israël et dans Juda à ce moment-là, pourquoi ils ont été envoyés en captivité. Et ces prophéties-là s'appliquent à nos nations modernes d'Israël aujourd'hui. Chapitre 3, verset 1, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. » Jérusalem était la capitale spirituelle des deux nations à ce moment-là. Dieu va enlever toute ressource d'Israël. Autrement dit, il va enlever tout le support de nos sociétés israélites modernes. Et remarquez ce qu'il va enlever. Tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. L'été dernier, ici dans la région, il ne restait seulement que 2 mois de réserve d'eau. La ville d'Atlanta, elle avait seulement 6 semaines de réserve d'eau. Dieu dit qu'il va bientôt enlever toute ressource d'eau. Actuellement, les réservoirs sont dans une bonne proportion remplie, mais ça ne veut rien dire, ça peut changer rapidement. L'été qui vient ne sera peut-être pas pareil. Dieu dit qu'il va enlever toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros est l'homme de guerre. Qui présente-t-on comme héros aujourd'hui dans les journaux ou sur YouTube ou dans les revues? Ce ne sont pas des vrais héros au sens biblique, pas du tout. Ce sont des héros au sens du monde. Il y a un article récent paru dans le Charlotte Observer, écrit par le premier officier en charge du recrutement de l'armée américaine. Il disait ceci, « Trop de jeunes Américains ne répondent même pas aux critères minimaux pour être acceptés dans l'armée au niveau de la santé, de l'éducation et du caractère. Environ 28 % seulement des jeunes de 17 à 24 ans peuvent se qualifier pour joindre les rangs de l'armée. » Autrement dit, il y a plus de 70 % des jeunes actuellement qui ne peuvent même pas se qualifier pour joindre l'armée à cause de raisons de santé, à cause de manque d'éducation et à cause de manque de caractère. Ça se passe, ça, dans la nation supposément la plus puissante de la Terre. Dieu dit qu'il va enlever le héros, l'homme de guerre, le juge, le prophète, l'ancien, le chef de 50, le magistrat. Autrement dit, alors que nous approchons de la fin, il devait y avoir et il y a un manque de leadership aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les autres pays Israélites. Verset 4, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Des enfants domineront sur eux, des gens capricieux, manquant de maturité. Et c'est ce qu'on voit dans le leadership, dans les gens qui occupent des postes. Il y a très peu de gens de grande maturité qui se présentent pour occuper des hautes fonctions dans nos nations. C'est ce qu'on voit. Dieu dit, je vais enlever ces leaders et ce sera des enfants qui domineront. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Et c'est ce qu'on voit se passer aujourd'hui. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. Ce jour même, il répondra, « Je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas comme chef du peuple. » Je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Verset 11. « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » En d'autres termes, on récolte ce qu'on a semé. Verset 12, « Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes domine sur lui. » La société actuellement est complètement tournée à l'envers. Les valeurs sont inversées. « Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. » Autrement dit, ceux qui te dirigent t'amènent dans une mauvaise direction. Résultat, c'est que la société s'effrite et s'effondre. Allons à Ésaïe chapitre 9, s'il vous plaît. Ce sont des prophéties qui s'appliquaient à l'ancienne nation d'Israël alors qu'elle était en train de s'effondrer, et ça s'applique bien sûr à nous aujourd'hui. Rendu au temps de la fin, Ésaïe 9 et le verset 7. Et cette prophétie s'adressait à Juda et Jérusalem à ce moment-là. Ésaïe 9 et le verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël, donc toute la nation. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie. Samarie était la capitale du royaume du Nord à ce moment-là. Verset 12. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, donc le peuple ne se tourne pas vers Dieu et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Il y aura une chute rapide des descendants modernes des nations d'Israël. Et on parle ici des dirigeants. Verset 4, « L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. » Alors ici, il parle des dirigeants civils et religieux qui dirigent les gens dans la mauvaise direction. Verset 15, « Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ceux qui suivent aveuglément ces dirigeants-là, vont dans la mauvaise direction et ils vont en payer le prix. Malheureusement, ce ne sera pas quelque chose de joyeux. Allons à Jérémie, chapitre 9, s'il vous plaît. Ce sont des prophéties que Dieu a adressées à Israël à ce moment-là, avant qu'ils aillent en captivité, pour les avertir. Et ça s'applique à nous aujourd'hui. Jérémie, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 2. « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. » Voici comment Dieu décrit son peuple des temps modernes. « Ils ont la langue tendue comme un arc et ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Les gens ne s'occupent pas de la vérité, donc. » Et comme résultat, ils iront en captivité. Allons à Ézéchiel chapitre 22 maintenant. Et Ézéchiel avait été envoyé vers Israël pour les avertir avant la captivité aussi. Alors Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 23, et ça explique pourquoi ils sont allés en captivité, pourquoi nos nations iront en captivité aussi. Alors donc, Ézéchiel 22 et le verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifié, qui n'est pas arrosé de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Il y a des ministres aujourd'hui qui font la promotion de l'ordination des femmes ou d'homosexuels. Il y a des ministres qui font la promotion et qui permettent ces choses-là. Ils doivent savoir mieux que ça. Et ça parle de la maison d'Israël ici. Il y a conspiration des prophètes en son sein. Et on voit au verset 26, un peu plus loin, ce qui se passe. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane, et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Voyez-vous? Écoutez, il y a 1 milliard de catholiques dans le monde, et il y a environ 1 milliard de protestants aussi dans le monde. Et la plupart de ces gens-là n'observent pas le sabbat. Ils enseignent que le sabbat a été aboli. Et Dieu dit ici qu'il s'agit d'une conspiration des dirigeants religieux. Allons au verset 29 ici. « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. » Dieu dit, « J'ai regardé pour trouver quelqu'un, un homme, qui se tiendrait debout, qui prendrait position pour la vérité. Mais il dit, « Je n'en trouve point. » Il n'était pas là en Israël à ce moment-là. Il n'y en avait pas. Allons dans le Nouveau Testament à 2 Timothée, s'il vous plaît. Et c'est une condamnation et une accusation à la nation d'Israël de ce moment-là, et ça s'applique à nous aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3 décrit une prophétie qui s'applique au temps de la fin. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 et le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps très difficiles, stressants, des temps bouleversants. Et il y a une raison pour cela, car les hommes, faites un cercle autour du mot « homme » ici, car les hommes seront égoïstes, ils vont penser seulement à eux-mêmes, amis de l'argent, remplis de convoitises, autrement dit. J'ai lu dans le journal ce matin qu'un des sénateurs américains vient d'être accusé d'avoir reçu des pots de vin et sera devant la cour. J'ai habité à Boston pour 10 années environ, et ça arrivait assez régulièrement que ceux qui sortaient de leurs postes gouvernementaux, qui étaient en charge, se retrouvaient en cour le lendemain pour des fraudes commises ou des illégalités. Et les gens font des blagues là-dessus parce que c'est tellement régulier. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Notez bien, ça dit « les hommes seront comme ça ». Ésaïe avait prédit que des enfants régneraient sur les hommes et les femmes dirigeraient, seraient en charge. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous voyons autour de nous maintenant? Au cours des dernières décennies, nous avons eu 2 présidents aux États-Unis qui ont été littéralement jetés dehors pour des raisons éthiques et des raisons morales. Le président Nixon a été impliqué dans Watergate à cause d'avoir transgressé les lois et d'avoir menti. Il a été expulsé, le poste le plus élevé de la nation. Et puis est venu le président Clinton qui s'amusait avec les jeunes filles dans son bureau. Voilà les exemples que nos dirigeants ont donnés aujourd'hui. Il y a des télé-évangélistes qui ont tombé en disgrâce à cause de leur comportement. Et ils ont été en première page des nouvelles. Il y a des centaines et des centaines de prêtres catholiques qui ont été enlevés de leur poste parce qu'ils ont abusé sexuellement d'enfants. Et ça a coûté à l'Église catholique des centaines de millions de dollars pour régler ces dossiers-là. Il y a des sondages qui ont été faits concernant le niveau de respect que les gens ont par rapport aux différentes autorités dans la société, et c'est frappant. Et je me rappelle d'un en particulier qui parlait du taux d'approbation concernant les politiciens, les ministres du culte et les avocats, et leur taux d'approbation était seulement à 30%. Les gens ne font plus confiance à ces gens-là, aux politiciens, aux ministres du culte et aux avocats. Quelqu'un a dit dernièrement, vous savez pourquoi on a enlevé les commandements des entrées des mairies? Parce que les 10 commandements parlent du fait qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas mentir. Et ça créait un environnement hostile de travail pour les politiciens et pour les avocats qui travaillent là. C'est une blague, bien sûr. Mais écoutez, les gens font ces blagues-là parce que c'est basé sur une réalité. C'est basé sur une réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quelle influence cela a-t-il sur vous et sur moi? Quel impact est-ce que ça a sur vous et sur moi, ce manque de leadership? En tant que membre de l'Église, en tant que jeune garçon qui grandit dans l'Église, en tant que dame dans l'Église, quel impact ça a sur nous? Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, il est écrit qu'en tant que chrétien, nous devons sortir du milieu d'eux, de la façon de faire de ce monde-là. Séparez-vous de ces façons de faire. Nous sommes appelés à vivre différemment. Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et certains ne veulent pas être différents de la société. Ils ne veulent pas se différencier du monde. Ils veulent, pour ainsi dire, se mêler un peu au monde. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Église universelle de Dieu? La plupart ont voulu retourner là où ils étaient auparavant, parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose là. Mais non, il n'y a rien là, c'est vide absolument. On doit sortir de là. En tant que chrétien, Paul nous dit qu'on doit sortir de ce monde, qu'on doit se séparer de ce monde. Le Christ a dit qu'on doit être des lumières du monde. On doit être différent du monde autour de nous. Allons à Matthieu, le chapitre 17, s'il vous plaît. Matthieu, le chapitre 17. On parle de notre mission ici en tant qu'Église. Matthieu 17, à partir du verset 10, Matthieu 17 et le verset 10. Les disciples connaissaient les prophéties de Malachie et ils savaient qu'Élie devait venir avant que le Christ vienne. Et ils ont questionné le Christ à ce sujet en demandant qui est cet Élie qui doit venir. Et au verset 11, on voit la réponse du Christ. Il est vrai qu'Élie doit venir, premièrement, et rétablir toutes choses. Nous avons été appelés dans l'Église à retrouver les vraies valeurs. Et nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment juste et ce qui est vraiment vrai et vivre en harmonie avec ces choses-là pour préparer la voie devant le retour de Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un sujet particulier, la masculinité chrétienne. Je viens de vous parler des prophéties où il est dit que les hommes allaient devenir remplis de convoitises et allaient faire plein de choses mauvaises et que des enfants allaient s'élever au-dessus des hommes et allaient les dominer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la masculinité chrétienne. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu a créé les êtres humains en tant qu'hommes et femmes, et particulièrement les hommes. Il faut avoir les qualités d'homme en tant qu'homme chrétien. Et Dieu a conçu un rôle précis pour les hommes. Il vous a créé en tant qu'homme et femme. Dieu n'a pas créé homme et femme par accident en disant « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai deux êtres différents. » Non, il nous a créés comme ça pour qu'on soit différents, pour qu'on soit un complément l'un de l'autre. Et ça fait partie de son merveilleux plan. Et je veux vous parler des défis qui se présentent aux dames aujourd'hui, aux jeunes hommes et aux hommes. Le sermon sur la masculinité chrétienne s'applique à tous. On doit tous comprendre. ce phénomène-là et cette réalité chrétienne-là, pour bien élever nos garçons et pour comprendre nos rôles respectifs. Il faut que les jeunes hommes apprennent à respecter les jeunes femmes et que les jeunes femmes apprennent à identifier la sorte de jeune homme qu'ils veulent marier et quelle valeur cet homme-là doit avoir. Et on doit considérer ces choses-là lorsqu'on se prépare à se marier. Alors, donc, le sujet aujourd'hui s'applique à tout le monde. Il faut comprendre ces données de base-là. J'ai lu un livre ici qui s'appelle « L'effrayante joie d'élever des garçons ». Un des commentaires de ce volume-là, ça disait « Les petits garçons sont comme des machines en perpétuel mouvement ». Et certaines personnes aujourd'hui pensent que c'est anormal qu'il en soit ainsi. Et ils disent même que les garçons doivent être guéris de ça. Et ils disent que les garçonnets qui sont actifs comme ça, c'est parce qu'ils souffrent de quelque chose, ils ont une pathologie. Ce sont des idées insensées, mais ce sont des idées répandues dans le monde de l'éducation et dans le monde de la politique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme chrétien? En quoi consiste la masculinité chrétienne? Vous savez, le monde a un certain concept de ça. Aux yeux du monde, être un homme, c'est une certaine façon. Un vrai homme, ça fume telle sorte de cigarette. Un vrai homme, ça prend un coup, ça boit beaucoup. Un vrai homme, ça dit des blagues sales. Et un vrai homme, ça court les femmes. Un vrai homme, ça boit de la bière et ça regarde la télévision. Est-ce que c'est ça, un vrai homme? Allons à Ésaïe, chapitre 55, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 55. Nous allons voir certaines choses. Ésaïe, chapitre 55. Rappelez-vous, Ésaïe parlait à une nation qui était en train de s'effondrer et qui s'en allait vers la captivité. Voici l'avertissement qui leur était donné. Ils avaient un défi, comme nous avons un défi aujourd'hui. Ésaïe 55 et le verset 6. Ésaïe 55 et le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il ne nous reste pas un temps illimité, le temps est court. Et il faut utiliser le temps que nous avons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu a miséricorde envers quelqu'un qui se repent et qui se tourne vers lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et voyez ce que Dieu dit après, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette fausse idée qu'un vrai homme, ça doit boire beaucoup, ça doit fumer, ça doit jurer, ça doit courir les femmes. C'est faux, c'est complètement faux. Mais c'est l'image que nous avons dans la société, ce qui nous est présenté. Et il faut que nos hommes et que nos jeunes hommes dans l'Église apprennent à faire la différence. Vous savez, mesdemoiselles, si vous mariez un jeune homme avant qu'il ait déterminé qu'est-ce qu'il veut être et quelles sont ses vraies valeurs, vous pouvez avoir des surprises. Il faut réfléchir à ces choses-là avant. Et nous, en tant que parents, il faut élever nos garçons de la bonne façon et aider les jeunes filles à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Dieu dit, « Mes voies ne sont pas vos voies. » Donc, vos voies, les voies du monde ne sont pas mes voies. Proverbe 1, verset 7 dit, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, de la sagesse. » Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Si nous voulons être des vrais hommes chrétiens et que nos garçons le deviennent, il faut agir de certaines façons et leur montrer certaines choses. Allons dans Genèse, le chapitre 1, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 1 maintenant. Et nous allons lire à partir du verset 26. Genèse 1 à Genèse 11. Ça décrit le plan de Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup dans ces chapitres-là. Genèse, chapitre 1, ça nous donne déjà une perspective ici. Verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, et ainsi de suite. » Verset 27, « Donc Dieu a créé l'homme pour régner sur la création. » Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. Nous ne sommes pas créés à l'image des autres créatures. Nous ne sommes pas créés à l'image d'un singe ou de quoi que ce soit. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec deux mains, avec deux yeux, deux oreilles. Nous ressemblons à Dieu. Nous avons été créés pour régner. Et nous ne pourrons pas régner tant que nous n'aurons pas la mentalité de Dieu, l'esprit de Dieu, la culture de Dieu. Dieu est un créateur. Et il nous a créés avec une capacité de créer aussi. Et c'est enthousiasmant d'utiliser cette possibilité de créer des beaux tableaux, de créer de la musique, des beaux bâtiments, et ainsi de suite. Dieu nous a donné de telles capacités pour que nous les utilisions. Dieu est un créateur. Et Dieu soutient sa création. Il ne s'en est pas détourné, absolument pas. Dieu est impliqué dans sa création. Vous savez, il y a des gens qui donnent la vie à des enfants et qui s'en détournent, qui s'éloignent. Mais ils ont des responsabilités sur le dos à ce moment-là. Et il y a des leçons à apprendre. Dieu nous a créés à son image et il veut que nous développions sa mentalité, sa perspective, sa façon de faire. Dans Philippiens 2, verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça, c'est la mentalité de Dieu. Et une partie de notre défi en tant qu'homme et en tant que femme, c'est de développer la perspective de Dieu sur la masculinité chrétienne, sur la féminité chrétienne aussi. Nous avons été créés pour croître et nous développer et nous sommes appelés à régner avec le Christ sur la terre. Genèse chapitre 2 maintenant et allons au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu créa l'homme et le plaça dans le jardin. L'Éternel donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a créé une femme, après ça, pour être sa compagne, une aide semblable à lui. Alors, nous voyons ici que l'homme a été créé en premier, ensuite, la femme a été créée en second. Dieu a donné une tâche à l'homme, une responsabilité. Et après, Dieu a dit à l'homme qu'il pouvait marier cette femme-là. Voilà la séquence que nous voyons ici. L'homme a été créé en premier, ensuite la femme a été créée pour être une compagne, pour être un complément de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme et que la femme soient seuls. Dieu nous a créés pour que nous soyons des compagnons en tant que couple. Et Adam a reçu une responsabilité et après, il a reçu une épouse. Et c'est une séquence importante à se rappeler. Si vous cherchez à vous marier et que vous n'avez pas de travail, vous mettez les choses à l'envers. Si vous voulez être un mari et un père, il faut que vous soyez prêt à éduquer des enfants. Et si vous n'êtes pas prêt à ces responsabilités, il y aura des conséquences. Allons à Proverbes chapitre 24, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 24, le verset 27. Voici des conseils donnés aux jeunes hommes ici. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. Donc ici, il donne un ordre de priorité. Il y a des choses qu'on doit faire d'abord. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Donc, établir notre source de revenus au point de départ, puis ensuite bâtir notre maison et ensuite aller vers le mariage. Voyez-vous, il faut se préparer aux choses et à nos responsabilités. C'est une chose importante à garder ces priorités-là à l'esprit. Un homme sage va faire ça. Il va contrôler ses émotions et il va porter attention à ces principes-là. Genèse chapitre 18 maintenant. un autre aspect de ce que Dieu montre comme étant important pour nous, pour les hommes. Ce sont des caractéristiques qui identifiaient Abraham très bien. Genèse chapitre 18 et le verset 19. Nous voyons ici pourquoi Dieu a établi Abraham comme le père des croyants. Et voyez ici ce que Dieu dit concernant Abraham. « Je l'ai choisi, car je sais qu'il ordonnera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, et ainsi de suite. » Abraham était le dirigeant spirituel de sa famille. Il était le leader. Et c'est ce que les hommes doivent faire. Les hommes dans une famille, dans un couple, doivent être les leaders spirituels. Ils doivent d'abord donner l'exemple. Ils doivent encourager leur épouse et leurs enfants à aller dans une certaine direction spirituellement. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit ceci. « Je l'ai choisi, Abraham, car je sais qu'il ordonnera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Il nous faut nous préparer à être des leaders spirituels. Au camp des jeunes, j'ai posé des questions à un groupe, puis c'était les filles qui répondaient. Les garçons écoutaient, mais ils ne participaient pas beaucoup. Et il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. Les garçons auraient dû être en train de répondre aux questions puis en train de poser d'autres questions. Mais non, ils restaient à côté. Je ne rabaisse pas les filles du tout ici. Pas du tout. Mais il y a quelque chose qui manquait du côté des garçons. Et j'ai remarqué autre chose, c'est que les enfants à qui on enseigne la Bible à la maison étaient beaucoup plus actifs et répondaient beaucoup. Ils connaissaient beaucoup de choses concernant la Bible. Formidable, c'est intéressant de voir les résultats lorsque on enseigne aux enfants ce qui doivent être enseignés. Pourquoi les hommes font tellement de choses insensées aujourd'hui? Une partie de ça, on l'a vu, c'est que dans Ésaïe, c'est que ceux qui te dirigent, mon peuple, te conduisent dans la mauvaise direction et nous en voyons les fruits aujourd'hui dans la société autour de nous. Il faut que nos hommes soient préparés à devenir des leaders spirituels, à développer une discipline personnelle. Ils doivent étudier la Bible personnellement chaque jour et ils doivent croître, apprendre. Leur éducation ne se termine pas à la sortie des institutions scolaires, non. On doit continuer à croître, on doit continuer à apprendre. Un autre passage dans Genèse chapitre 3. Dieu cherche des caractéristiques précises dans l'homme. Voyez-vous, Adam s'était vu dire de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne joue pas de jeu avec Dieu. On ne peut pas dire parce qu'une chose est partiellement bonne, mais partiellement mauvaise qu'on peut en prendre. Non. Je me rappelle de quelqu'un qui disait « Je suis un chrétien, mais j'aime Noël, j'aime les réunions de famille, j'aime tout ça, mais je trouve ça trop commercial. » Écoutez, c'est le bien et le mal mélangés ensemble. Ce n'est pas la voie de Dieu. Et les voies de Dieu jamais sont constituées par une partie de mal et une partie de bien. Dieu avait dit à Adam, « Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas. » Le serpent est venu et a attisé la convoitise d'Ève. Alors, Ève va regarder, elle dit, ça a l'air agréable, ça a l'air bon, plaisant à regarder. Et c'est désirable parce que je vais pouvoir être sage, je vais pouvoir connaître le bien et le mal avec ça. Qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle l'a donné à Adam et il en a mangé. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Dieu avait créé l'homme pour être le dirigeant de son couple, pour être un dirigeant actif. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Merci, chérie. Oh, c'est vrai que le fruit est beau. Il a été passif. Il a suivi. Il n'était pas un dirigeant. Il a suivi et il y a eu de graves conséquences à ça. En tant qu'homme, Nous devons prendre l'initiative, nous devons agir. Dans Matthieu 16, vous vous rappelez que Pierre a dit au Christ, « Je ne te laisserai pas être crucifié. » Le Christ n'a pas dit, « Oh, merci Pierre, j'apprécie que tu veuilles m'aider. » Non, non, le Christ a pris le taureau par les cornes et il a dit, « Pierre, tu es inspiré d'un autre esprit que de l'Esprit de Dieu. » Lorsque le Christ est entré dans le temple et qu'il a renversé les tables, des gens auraient pu dire, « Ah, avez-vous vu ce qu'il a fait? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un aurait pu être blessé. » Non, le Christ est entré et il a renversé les tables. Vous savez, les hommes doivent prendre des initiatives et faire des choses à un moment donné. Je me rappelle à Big Sandy, quand le Dr. Starindez était là, il donnait une présentation aux membres de la faculté à ce moment-là. Il y avait deux tableaux et il demandait nos questions. Et si vous demandiez une question qui lui plaisait, il écrivait sur le tableau de droite et sur le tableau de gauche, il écrivait les questions qu'il n'aimait pas. En faisant ça, il intimidait les gens. Et il disait, on n'avancera pas dans nos discussions tant que tout le monde ne sera pas d'accord. Personne ne voulait être en désaccord. J'étais en train de bouillir sur mon fauteuil. Et finalement, il a demandé des questions et je me suis levé et j'ai dit, « Dr. Stavridis, ce n'est pas de l'enseignement, c'est de l'intimidation que vous faites. » Et il a dit, « Voici le crève, vous pouvez diriger le cours si vous voulez. » J'ai dit, « Non, ça ne m'intéresse pas, c'est votre spectacle, ce n'est pas le mien. » Vous savez, il y a des moments où il nous faut nous tenir debout, où il nous faut prendre position. Avant de dire quelque chose, il faut réfléchir. Est-ce que ça doit être dit maintenant? Et quand je me suis rappelé de ce principe-là, je me suis dit, oui, ça doit être dit maintenant. Et je l'ai dit, j'ai regardé autour de moi, il y avait d'autres docteurs, d'autres gens qui avaient des doctorats autour de moi, mais personne ne bougeait. Et je me suis dit, si je ne bouge pas, il va pousser tout le monde au pied du mur. Alors, il y avait quelque chose qui devait être dit à ce moment-là et il fallait que quelqu'un le dise. Il faut évaluer ce qu'on fait, bien sûr, mais la masculinité implique de prendre position et parfois de prendre des risques. Je savais que j'allais probablement être mis à la porte à cause du sermon que j'allais donner après ça. Quelqu'un m'a dit, soyez prudent, dites-en pas trop. Écoutez, j'avais peut-être 2 semaines de salaire à la banque, alors je me suis dit, non, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Il y a un temps où il faut dire quelque chose. Dieu cherche des gens qui vont se tenir debout. Allons au livre de Josué, chapitre 1, et voyez le conseil donné à Josué. Moïse était une très grande pointure à remplacer, mais Dieu a inspiré ce qui allait venir, et on voit que Josué a été un bon leader, qu'il avait les bonnes qualités, qu'il les a développées. Josué, chapitre 1, on va commencer à lire au verset 1. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Bon, alors ici, l'Éternel a mentionné à Josué qu'est-ce qu'il avait à faire. Et regardez le verset 6, ce que Dieu a dit à Josué, « Sois fort et prends courage, sois fort et prends courage. » Il y a différents moments dans la vie où on passe des épreuves, où il y a des tribulations, et il nous faut être courageux, être fort dans ces périodes-là. Il nous faut faire preuve de foi à ce moment-là. Dieu dit dans Romains 8, verset 28, que tout va concourir à notre bien si nous aimons Dieu et si nous nous en remettons à lui. Lorsqu'on est appelé selon le dessein de Dieu, il nous faut faire foi envers notre Dieu. Oh, j'ai peur de perdre mon emploi si j'obéis au sabbat. Non, tenez bon. Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Prenez les décisions que vous avez à prendre et Dieu va s'occuper de vous. Vous allez voir, c'est une promesse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Verset 7, encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Les petits garçons, lorsqu'ils grandissent, ils prennent des risques, vous le savez. Ils montent aux arbres, ils montent sur les branches. Je me rappelle quand nos garçons avaient 6 ans et 7 ans, j'avais prêché dans une église et quelqu'un est venu me voir après. Il m'a dit, vous êtes mieux de surveiller un de vos garçons parce qu'il est monté sur le toit de la maison à côté. Je suis sorti dehors et il était bien sur la toiture de la maison. Pourquoi est-ce que des garçons font ça? Parce que ce sont des garçons. Aujourd'hui, les gens disent, oh, on ne peut pas laisser les garçons faire ça, ils peuvent se blesser. Non, il faut que les garçons développent ces choses-là. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir des hommes, avec une assurance, avec des bonnes caractéristiques, avec des belles qualités. Dans Alamo, le colonel Travis, vous avez peut-être déjà vu dans le film Alamo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne dans le sable avec son épée et il a dit, c'est ici que ça s'arrête. Il y a des gens comme ça qui sont devenus des héros et qui ont inspiré d'autres générations de gens. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Sois courageux, ce ne sera pas facile. Sois fort. Mais il nous faut choisir un sentier et rester sur ce sentier-là. Verset 8. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, garde ton nez dans le livre, étudie chaque jour, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà pourquoi. Faites à la façon de Dieu, agissez comme Dieu vous dit d'agir. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle promesse extraordinaire! Il faut qu'il en soit de même pour nous. Dieu nous dit, soyez forts et ayez courage. Je suis avec vous. Exode chapitre 18, voyons une autre qualité que Dieu veut voir chez les hommes qui font partie de son équipe et de même, dans une certaine proportion, chez les femmes aussi. Exode chapitre 18 et le verset 21. Voici des qualités que Moïse cherchait chez ceux qu'il établissait comme leaders. Et on doit aider nos garçons à développer de telles qualités. Exode 18 et le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables, des gens qui ont des habiletés. Et c'est pour ça qu'il faut donner à nos garçons des possibilités de développer différentes caractéristiques et de développer leurs talents. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Expliquez aux jeunes gens qui est Dieu, comment il a créé le monde. Expliquez ça à vos enfants. Je me rappelle d'un ami qui avait deux petites filles. Il expliquait à ses petites filles que Dieu avait créé les éléphants, les tigres, et ainsi de suite. Et plus tard, il leur a dit à ses deux fillettes, on va aller au zoo aujourd'hui, où il y a des éléphants, des tigres. Les petites filles avaient demandé, est-ce que c'est là que Dieu habite? Lorsque vous expliquez à vos enfants qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, quel est le but de la vie, ça les imprègne. Alors je reviens ici, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, intègres. Des gens qui ne sont pas à vendre, des gens qui sont solides, des gens qui ne font pas de compromis. Enseignez à vos enfants à faire ces choses-là, à ne pas faire de compromis, à dire la vérité, à haïr la convoitise. On dit que les garçons qui ont vieilli ont simplement des jouets plus gros. Les petits garçons jouent avec des petits jouets, des petites voitures en plastique, mais lorsqu'ils sont plus grands, ben, ils veulent avoir des jouets plus grands, des grosses voitures. Ce n'est pas ça le succès, ce n'est pas le vrai succès. C'est intéressant d'avoir des belles choses, bien sûr, lorsque c'est possible, mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit mettre l'accent. Il ne faut pas être celui qui dit « Ah, j'ai la plus belle voiture dans le voisinage, j'ai la plus grosse maison ». Non, absolument pas. Lorsque les gens sont concentrés là-dessus, une fois qu'ils ont ces choses-là, c'est vide. Ils cherchent d'autres choses. Ça ne satisfait pas. Je me rappelle, j'ai connu un jeune homme autrefois et il était riche. Il s'était acheté une Porsche à ce moment-là, le dernier modèle, et je suis allé la voir dans son garage et il l'avait couvert d'une grande toile pour la protéger. Et 2 semaines après, il était furieux parce qu'il m'a dit, la compagnie a produit un modèle encore plus perfectionné que celui-là. Je ne suis plus à la mode. Voyez-vous, ça ne satisfait pas. Là était son centre d'intérêt. Ça ne satisfait pas l'être humain. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. On parle ici de qualités importantes chez un homme. Dans Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 10, une autre qualité que nous devons avoir. Alors, Ecclésiaste 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et nous allons tous aller là. Mais le principe, c'est ça. Tout ce que nous trouvons à faire, on le fait avec force, avec diligence, avec zèle. La Bible dit dans les Proverbes qu'une personne diligente va être auprès des rois, aura des bons postes. Je me rappelle d'un homme en Nouvelle-Angleterre que j'ai connu. Il était surintendant de chantier de construction et il m'a dit, ça fait 3 fois que j'essaie de prendre ma retraite. Et chaque fois que je prends ma retraite, la compagnie m'appelle pour que je revienne au travail parce qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un qui fait le travail comme il faut. Ceux qu'ils ont mis en poste, les jeunes qu'ils ont mis en poste comme surintendant de chantier, ne se présentent pas à l'ouvrage à moitié du temps. Le vendredi matin, ils appellent pour dire qu'ils ne peuvent pas rentrer. Le lundi matin, ils appellent pour dire qu'ils vont rentrer seulement le mardi, et ainsi de suite. Les dirigeants de la compagnie ont dit, on ne peut pas avancer nos chantiers. Alors cet homme-là avait de la difficulté à prendre sa retraite parce que c'était un homme reconnu comme efficace. C'était un exemple de ce qu'on voit ici. Tout ce qu'il trouvait à faire, il le faisait avec sa force. Bien sûr, on doit le faire avec sagesse parce que parfois on peut choisir de faire quelque chose qui n'est pas vraiment utile ou qui nous amène dans de mauvaises directions. Il faut exercer de la sagesse pour choisir à quoi on consacre nos énergies. Je me rappelle d'un livre appelé A Man of Iron and Velvet, un homme de fer et de velours. Il y avait deux sections dans ce livre-là qui donnaient deux aspects de ce qu'un homme doit être. D'abord, être un protecteur. Dieu est un protecteur. David dit à Dieu, tu es ma forteresse, mon refuge, mon rocher. Nous devons être des protecteurs. Nous devons être des gens qui pourvoient comme Dieu fait. Certaines personnes disent, ah, je veux me marier et quand je veux me marier, mon épouse va travailler. Non, ça c'est à l'envers. L'homme doit être un pourvoyeur, un protecteur. Et les hommes doivent bâtir une société. Moïse a bâti toute une société. Nous devons être des constructeurs, des créateurs, en tant qu'hommes, avec du caractère, avec les qualités qui vont avec, en développant la confiance en soi. La partie de velours de l'homme, c'est de comprendre les dames. Pas simplement leur dire quoi faire. C'est moi qui est l'homme, c'est moi qui est en charge ici. Non, non, pas du tout, ça ne doit pas marcher de même. On doit comprendre nos épouses. 1 Pierre 3, verset 7, dit qu'on doit comprendre leurs besoins. Et un des besoins principaux des dames, c'est d'avoir la sécurité financière. Si en tant qu'homme, vous n'êtes pas capable de pourvoir à cela, vous êtes en difficulté. Et en tant qu'homme, vous devez écouter. Écoutez, prêtez oreille à ce que votre conjointe a à dire. Laissez-la parler. Cessez d'arriver toujours avec des solutions ou de la couper toujours en pensant que vous savez d'avance ce qu'elle va dire. Non, écoutez. Écoutez-la, elle a besoin de vous parler. L'homme et la femme sont différents et nous avons été conçus pour être différents. Alors, lorsque nos garçons grandissent, ils doivent voir leur père comprendre leur mère, être attentif, être des pourvoyeurs, encourageants. Il faut être capable de montrer de l'affection. C'est le côté de velours de l'homme, être attentif aux besoins de l'épouse. Et aussi être jeune d'esprit. J'aime à travailler avec M. Appartient parce qu'il est jeune d'esprit et de cœur. Hier, il y a eu un nouveau portable et il jouait avec comme un petit garçon. J'aime voir M. Appartient agir comme ça. Et il fait des blagues et il dit toujours « Je vais amener toutes les secrétaires du bureau manger. » Il est jeune dans sa façon d'approcher les choses. Et il ne faut pas avoir peur de rire de soi-même même et d'avoir du plaisir de cette façon-là. Il faut être humble. Et ça, c'est encore l'aspect de velours de l'homme. Être humble, être disposé à écouter les autres. À développer du raffinement aussi. Pour les belles choses de la vie. Même si on ne peut pas se les procurer, on peut les apprécier. Ce sont toutes des qualités qu'un homme doit développer. Comment devenir masculin en tant que chrétien? Comment se préparer? Comment éduquer des enfants, des garçonnets à devenir masculins? Un, étudier les exemples bibliques. Étudier les exemples bibliques. Pourquoi est-ce que David était un homme selon le cœur de Dieu, par exemple? Quelles étaient les qualités d'Osée, d'Ésaïe, de Jérémie? Quelles étaient les qualités d'Abraham? Étudiez ces exemples bibliques. Mettez tout ça ensemble. Pensez-y. Deuxièmement, lisez des livres sur la masculinité chrétienne. J'ai un livre ici qui s'appelle « Élevez vos fils comme des chevaliers modernes ». Élevez vos fils comme des chevaliers modernes. Et je veux vous lire à partir d'un autre livre les règlements qu'il y avait au collège de Harvard en 1643. C'est surprenant, mais vous allez voir les valeurs qui étaient véhiculées dans notre société à l'époque. C'était les règlements du collège de Harvard en l'an 1643. Et vous savez, pourquoi les hommes sont tellement différents aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils convoitent tellement? À cause des messages qui sont véhiculés dans les médias constamment autour de nous aujourd'hui. Alors, je vous donne les règlements qu'il y avait à Harvard en 1643. C'était une institution pour les jeunes hommes seulement. Que chaque étudiant soit clairement instruit et fortement amené à établir que le but de la vie et de ses études consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ, ce qui est la vie éternelle, et par conséquent à considérer le Christ comme base en tant que seul véritable fondement de la connaissance. C'est ce que les jeunes hommes apprenaient en 1643 aux États-Unis. Cette institution a été établie par les puritains. Une autre règle, tous les élèves doivent étudier les Écritures deux fois par jour et être prêts en tout temps à démontrer leur connaissance en la matière, tant sur le plan de la logique que sur le plan des vérités spirituelles pratiques. Voilà comment on entraînait les jeunes hommes à l'époque. Une autre règle, les étudiants doivent exclure toute profanité de leur langage concernant les noms et attributs de Dieu, de même que de ses lois et ordonnances. Ils doivent étudier en toute bonne conscience et garder à l'esprit l'amour de Dieu et de sa vérité. Et il y a d'autres règlements qui ressemblent à cela. Une autre information ici, tirée des récits de Canterbury par Geoffrey Foster, un poème sur la chevalerie. Le titre, c'est « Le chevalier ». Et c'est quelque chose d'inspirant. Il y avait un chevalier, un homme valeureux, ayant depuis toujours aimé la chevalerie, la vérité et l'honneur. Il n'y a rien de mauvais avec ça. La générosité et la courtoisie. Ce sont des valeurs de chevalerie, totalement engagées à combattre pour son souverain, se montrant honorable dans sa bravoure, se montrant honorable dans sa bravoure. Il en recevait les plus hautes louanges, et même s'il était valeureux, il se montrait sage, en agissant avec humilité. Jamais il ne disait de choses viles ou mauvaises. Envers tous ceux et celles qu'il rencontrait, il manifestait le charme, la douceur, la gentillesse du parfait chevalier. Fin de la citation. C'était des valeurs dont on faisait la promotion en Occident il y a quelques centaines d'années. Ça a disparu. Et ce qui en reste disparaît rapidement. Mais ce sont des choses qu'on doit retrouver, des valeurs qu'on doit retrouver. Il n'y a rien de mauvais à élever un chevalier des temps modernes en parlant de nos garçons. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous avons de grands défis aujourd'hui. Vous savez, il y a 22 % des foyers en Amérique qui sont sans père. Il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences graves. Lorsqu'on regarde les statistiques, ça parle très fort en ce sens-là. Les enfants issus de familles où le père est absent ou n'est pas là représentent 63 % des enfants qui se suicident. Les enfants issus de familles où le père n'est pas là représentent 80 % de ceux qui se droguent, 85 % de ceux qui souffrent de désordre de comportement, représentent 85 % des jeunes de leur âge qui sont en prison, 90 % des jeunes fugueurs. Ça parle fort. Il y a environ 22 % des enfants en Amérique actuellement qui grandissent dans un foyer sans père où le père n'est plus là. Des hommes qui n'étaient pas responsables dans certains cas, qui ont quitté. Vous savez, on récolte ce qu'on a semé, et c'est ce qu'on voit. Et il nous faut tourner ces choses-là de côté pour revenir aux vraies valeurs. J'ai lu un livre intitulé « La guerre contre les garçons », écrit par un docteur en philosophie, Christina Hofsommer. Elle a éduqué deux garçons et elle a écrit un livre à ce sujet-là. Et ce qu'elle dit, c'est que ce qu'on fait à nos garçonnets aujourd'hui, à leur enseigner à jouer avec des poupées, à essayer d'éliminer leur agressivité, à leur enseigner à faire des couvre-pieds et à jouer le rôle de fillette, c'est faux. C'est contraire à la réalité. On veut enlever les récréations, par exemple, parce que c'est une occasion pour les garçonnets d'être trop agressifs. Il ne faut pas faire ça. Je ne parle pas d'une mauvaise agressivité. Écoutez, moi, quand j'étais jeune, je vivais pour les récréations. Si vous demandez ce que les enfants aiment le mieux à l'école, beaucoup de garçons vont vous dire « c'est la récréation ». Lorsque mes deux garçons avaient 6-7 ans, on allait à l'Assemblée de Sabbat en après-midi et on s'organisait pour que ça aille bien. Dans l'avant-midi, ce qu'on faisait, on les vidait d'énergie. On les emmenait souvent prendre une marche dans l'arboretorium et lorsqu'on les amenait ensuite à l'Assemblée, après avoir mangé une petite bouchée, ils s'endormaient littéralement. Mais les garçons sont comme ça, ils sont remplis d'énergie. Il faut agir en conséquence. Ma petite fille, il y a quelque temps, marchait avec son petit frère et son père pas loin d'un muret. Et le petit garçon, lui, a sauté sur le muret, tandis qu'elle n'est pas allée. C'est masculin pour les petits gars de faire ça. Et si on les empêche de faire ça, ça va les empêcher de se développer normalement. Nous avons de grands défis à relever. Notre société envoie les mauvais messages concernant ça. Charles Dobson a écrit un livre intitulé « Éduquer des enfants » et il cite le docteur Nicolosi, un psychologue, qui a fait des déclarations très intéressantes. Il a dit, par exemple, « La masculinité est une réalisation, un accomplissement. La masculinité est quelque chose qu'on accomplit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par hasard. Ça exige des choses. Ça exige de bons parents qui jouent bien leur rôle. » Ça exige un support social, ça exige aussi de bons exemples et ça prend du temps. Il faut passer du temps avec nos garçons. Lorsque mon fils Scott était tout jeune, je jouais au tennis avec un ami et j'ai dit à mon ami de tennis, j'ai hâte que mon fils vieillisse parce que je pourrais donner plus de temps à l'œuvre. Et il m'a littéralement accoté au mur en disant, quand ton fils va vieillir, il faudra que tu passes plus de temps avec lui. Vous savez ma réaction à ce moment-là? Il n'est pas converti. Il n'est pas converti pour penser comme ça. Plus tard, c'est intéressant parce que son fils est venu au collège et c'est moi qui ai lu sa feuille d'application. Et j'ai vu la sorte de garçon qu'il avait élevé parce que cet homme-là avait passé du temps avec son fils. Il avait fait des escalades de montagne, il avait joué avec lui, fait du sport et ainsi de suite. Au début de mon ministère, je travaillais avec un autre ministre et on partait à 10 heures le matin, on allait faire des visites. On allait manger près d'un centre d'achat, on marchait un petit peu et après, on allait faire d'autres visites et on allait sur le souper encore manger un petit restaurant et ensuite, on arrivait à la maison à 9-10 heures le soir. Et après un certain temps, j'ai dit à mon collègue ministre, à la fin de l'après-midi, moi, je m'en vais à la maison et je veux jouer avec mes garçons, je veux jouer au basketball dans la cour. Et après, je vais aller souper. Et s'il faut faire d'autres visites, on les fera après. Je n'ai jamais regretté ça. Et même lorsque mes garçons étaient adolescents, je revenais à la maison pour passer du temps avec eux. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits et mes garçons sont proches de moi. Ça prend du temps. Il faut s'impliquer. Ça prend du temps pour développer la masculinité de nos garçons. J'ai vu une autre citation qui est très bien. Le fait d'être un mâle est déterminé par la naissance, mais être un homme, c'est une question de choix. Le fait d'être mâle, ça vient avec la naissance ou par la naissance, mais devenir un homme masculin, c'est une question de choix. Quelle voie je vais suivre et comment je vais me comporter? Et ça exige les bonnes connaissances, ça exige des bons exemples. Trois choses que les garçons ont besoin, et je vais conclure avec ça ici. Il y a trois choses que les garçons ont besoin, et ça vient d'un livre intitulé « Élever un chevalier moderne », écrit par le docteur Robert Lewis. Élever un chevalier moderne. Premièrement, les garçons ont besoin d'acquérir une vision claire de ce qu'est un homme chrétien. Il faut que les garçons se fassent enseigner qu'est-ce que c'est être un homme chrétien. Proverbe 29:18. Dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais ceux qui observent la loi de Dieu sont heureux. » Il faut expliquer à nos garçons, alors qu'ils grandissent, qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être un homme chrétien. Il faut être honnête, il faut être créatif, il faut être un dirigeant, il faut être un serviteur, il faut aller de l'avant, il faut être courageux, il faut prendre des risques de temps en temps, il faut enseigner ça à nos enfants, il faut devenir des protecteurs. La deuxième chose que les garçons ont besoin d'apprendre, c'est d'avoir un code de conduite. Exode 20, les 10 commandements. Voilà notre code de conduite. On met l'accent sur l'honnêteté. On met l'accent sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai. Josué avait un code de conduite. Il ne faisait pas certaines choses qu'il avait le goût de faire. Il faisait des choses qu'il devait faire. Daniel avait un code de conduite. David avait un code de conduite. Jésus avait un code de conduite. M. Weston, au camp des jeunes, parle de créer une culture de pureté, une culture de pureté. Faire les choses de bonne façon et mettre l'accent sur ce qui est bien. Faites ça avec vos enfants. Aidez-les à aller en ce sens-là. Comment traiter les jeunes filles? Comment traiter les garçons? Le troisième point que nos garçons ont besoin, c'est que les jeunes garçons ont besoin de développer une vision noble, avoir un but dans la vie, un but plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose d'important. Dans Matthieu 6, verset 33, on parle d'un grand but. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste va tomber en place par la suite. Lorsque nos jeunes gens examinent quelle carrière ils veulent avoir, moi, je les encourage et je vous encourage, vous les jeunes qui vous préparez à une carrière, à choisir une carrière qui va être utile maintenant et qui va être utile dans quelques années dans le monde à venir. Pensez à cela. qu'est-ce qui va être utile maintenant, qu'est-ce qui va être utile dans quelques années et qu'est-ce qui va être utile dans le monde à venir pour que vous puissiez utiliser ces habiletés-là, ces talents-là que vous aurez développés. Dieu est en train de nous préparer littéralement pour transformer le monde, pour ramener le monde aux vraies valeurs. Les gens ne savent plus vraiment ce qu'est la vraie masculinité aujourd'hui, ni la masculinité chrétienne. Il faut retrouver ces valeurs-là nous-mêmes pour être capable de les enseigner dans le royaume de Dieu. Pour être capable de dire aux gens à ce moment-là, voici la voie à suivre et voici les bénéfices que vous allez en tirer. Lisez certains écrits en ce qui concerne cela. Faites des études bibliques sur les héros bibliques, par exemple. Sur David, sur Josué, sur Daniel, Paul. Lisez des livres, des biographies sur des héros. J'en ai lu une par Paul Johnson, qui est un historien anglais, catholique, mais c'est un homme qui a des vraies valeurs. Son livre est intitulé « Heroes » et il y a un chapitre sur De Gaulle, Charles de Gaulle, et sur Winston Churchill. Ça se lit bien. Il parle de d'autres individus qui ont marqué l'histoire aussi. Et on apprend beaucoup de ces choses-là. À l'école, on invite nos enfants à lire certaines littératures qui est peu édifiante et parfois qui est contraire aux valeurs chrétiennes. Pourquoi ne pas lire quelque chose qui est inspirant? On ne veut pas être comme certains soi-disant héros de littérature contraire aux voies de Dieu. J'ai lu des volumes sur Davy Crockett, sur Daniel Boone, et je voulais devenir comme eux, avoir leur caractère, avoir leur force. Vous lisez la vie de Churchill, vous voulez devenir comme lui. Il faut encourager nos hommes et nos jeunes hommes à mettre l'accent et à mettre leur centre d'intérêt sur des hommes qui ont réalisé des choses comme ça. En faisant cela, on se prépare à changer le monde. Le monde a perdu de vue qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Dieu avait prophétisé il y a plusieurs milliers d'années que ce serait le cas au temps de la fin. Le Christ revient pour rétablir toutes choses, pour rectifier les choses. Et vous et moi, nous avons été appelés pour nous préparer à faire cela. Alors, je vous lance en quelque sorte un petit défi aujourd'hui. Efforcez-vous de devenir un chevalier des temps modernes. Éduquez vos fils avec un sens de la chevalerie, les préparant à bâtir le merveilleux monde à venir, les préparant à respecter et à protéger les dames. Il y a là un avenir tellement enthousiasmant. Si notre but est vraiment de devenir des hommes réellement chrétiens.